Bonjour tout le monde et bienvenue à la tasse de café, le balado de LNH.com. Nicolas Duchamp au micro, bien heureux de vous parler en ce 29 janvier, mois de janvier qui tire à sa fin. On se rapproche lentement, mais sûrement de la confrontation des quatre nations. On sait la pause du milieu du mois de février qui va permettre aux meilleurs joueurs au monde de s'affronter à Montréal, à Boston. On va peut-être, on va suivre ça de près, mais aujourd'hui à l'émission, on va parler de ce qui se passe chez les Canadiens de Montréal, dont l'inquiétante blessure de Caden Goulet, les répercussions que ça pourrait avoir sur les performances de l'équipe. On va parler de Marc-André Fleury, qui devrait disputer son dernier match à Montréal jeudi. On va bien sûr parler de la transaction monstre qui a envoyé Mikko Rantanen du côté des Hurricanes de la Caroline. Et on va avoir comme invité Alex Chiasson, qui a confirmé qu'il prenait sa retraite dans les dernières semaines. Donc, on va l'avoir en entrevue. Il est à Boston. Il va nous parler un peu. On va revenir sur sa carrière, comment il a vécu ça. C'est un gars qui a dû se relever les manches pour réussir à rester dans la LNH pendant plus de 600 matchs. Donc, on va parler, on va faire un retour sur cette belle carrière. Et pour faire tout ça, ben j'ai aujourd'hui comme invité avec moi Jean-François Chaumont. Salut, JF.
Salut, Nick. Bon matin.
Ça va bien?
Très bien, toi?
Eh oui, très bien, très bien. Guillaume Lepage, salut, Guillaume.
Salut, les boys.
Remis de votre couverture d'hier au match des Canadiens. On va parler de ça aujourd'hui. Je dis remis parce qu'on se couche tout le temps un peu tard hein, dans ces temps-là. Moi, c'était pas un match du lundi à 7h30. Ça, c'est déjà un gros plus pour les heures de sommeil, de tout ça. Hein, parce que nous autres, soyons frais, là, une demi-heure de plus, ça mélange la routine pas à peu près pour les routiers.
C'est dur de s'endormir en revenant à la maison immédiatement après le match. Moi, j'avais proposé une solution à Guillaume, question de l'aider dans son sommeil. Je voulais boire une bière après la rencontre avec un collègue suisse, Grégory, qu'on peut saluer sans tourner avec un accent français, comme Marc-Antoine Godin faisait hier soir. On salue Godino de Radio-Canada. Mais non, quand même, sage, une petite bière dans un établissement montréalais, l'Île Noire, pour ne pas le nommer. Puis question de faire découvrir un petit peu Montréal aux collègues qui vient de Fribourg.
Papé, le gars, il skate une bière. Sa prochaine
absolument
visite,
pas. Écoute, à la quantité bière. De bières que j'ai pu acheter à l'Île-Noire depuis de nombreuses années.
S'il y avait eu à t'en donner une, ce serait fait.
Ce serait fait, exact.
Non, mais Nikita
ne travaillait pas hier.
Elle nous gâte quand même avec des petites consommations ici.
Oui,
là.
Oui. Rien de trop.
Mais je suis dans un mois sans alcool janvier sans alcool, février sans alcool, tout ça. Fait que j'ai refusé l'invitation de mon collègue Chaumont pour ne pas tomber. T'sais, j'aurais pu prendre un petit drink sans alcool, là, mais j'ai décidé d'aller me coucher. Et ce matin, à 7h30, j'étais au gym. Là, je suis en pleine forme. Écoutez, messieurs, je suis productif comme j'ai rarement été jusqu'au mur que je vais pogner autour de 2h cet après-midi.
La petite sieste là pour Guillaume, nous autres, on a des enfants, donc mon gym ce matin, ça a juste été de tirer le traîneau jusqu'à l'arrêt d'autobus. Chacun nos réalités, Guillaume. Avant de commencer...
Mais Nick, oui, vas-y. Je suis convaincu que Guillaume commence ses étirements également. Parce que jeudi au programme, deuxième match de pickleball en une semaine.
Oh oui.
Et Guillaume à 6'4", peut-être 138 livres. Il a beau jouer au pickleball, puis il me dit le lendemain qu'il est raqué. Donc, je conseille fortement.
Ça rebondit pas, ça rebondit
c'est
pas
ça.
Cette balle-là.
Il y a plus long à pencher. Ça, c'est vrai, c'est vrai.
Mais on conseille ce sport-là à tous nos auditeurs. C'est merveilleux. Il y en a qui rient de ça parce que c'est un sport pour les retraités.
Personnes âgées,
là, mais,
oui. On l'assume pleinement.
Oui, on se pipe. Puis sur le beat, on commence à gagner du terrain là, parce qu'on a invité deux collègues la première fois. Là, on en invite un nouveau demain. Fait qu'on va... C'est comme une petite pandémie là, qui va se répandre là, parmi les médias.
Une pandémie. Let's
les médias
go,
montréalais. Non, j'ai réduit ça à une épidémie.
Oui, c'est ça, un peu. Là. Hey, chers auditeurs, avant qu'on commence, parce que là, ça fait quand même bien pas loin de 5 minutes qu'on radote et on dit tout et rien. Juste vous inviter, si vous nous écoutez sur le site de LNH.com, sachez qu'on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute qui peuvent à peu près exister. Faites une recherche, la tasse de café LNH, vous allez nous trouver. À Spotify, Apple, YouTube, entre autres, là, les trois, je dirais les trois plus gros qu'on est là-dessus. Suivez-nous, comme ça vous êtes certain de ne jamais rater un balado. D'ailleurs, là, avec la date limite des échanges, la confrontation des quatre nations, la course aux séries, là, on risque de. Peut-être va y avoir quelques mouvements ici selon ce qui nous arrange. On verra bien dans les prochaines semaines. Les gars, on se lance. Chaque semaine, d'habitude, on lance le balado en parlant des Canadiens, mais il me semble que depuis deux semaines. Puis là, encore plus cette semaine, le ton est un peu moins joyeux qu'il l'a été lorsqu'on s'est emporté à la mi-janvier, à peu près, quand tout allait bien, fin janvier, début janvier. C'est pas... Bon, hier, défaite de 4-1 contre les Jets de Winnipeg. C'était pas une catastrophe comme match. Comme les dernières rencontres des Canadiens ne l'ont pas été, mais on sent qu'il y a un petit peu, lentement mais sûrement, du sable dans l'engrenage, ce qui est normal pour une jeune équipe comme ça. Mais bon... Il peut pas avoir beaucoup de sable dans cet engrenage-là si on veut rester dans la course aux séries. Là.
Ben, il y a tranquillement, pas vite, peut-être un retour du balancier. Les Canadiens étaient sur une période là, pratiquement impossible à recréer sur une longue, longue, longue période. Hier, contre les Jets, 15 bonnes premières minutes en première période. Ensuite, l'équipe qui s'endort pour la deuxième période, la fin de la première. C'est des tendances qu'on voyait pas depuis quelques semaines, mais qu'on voyait souvent au mois de novembre, au mois d'octobre. C'est une troisième défaite d'affilée, donc tu regardes le classement, tranquillement, pas vite, le Canadien s'éloigne un petit peu, mais reste quand même dans le portrait. C'est toujours très, très, très serré. Martin Saint-Louis, c'est le type d'entraîneur qui voit toujours le verre à moitié plein. Disait que c'était un bon match, que les Canadiens avaient joué suffisamment bien pour peut-être sortir avec un résultat. Mais de l'autre côté, c'est une formation expérimentée. Les Jets restent au sommet depuis le début de la saison. Kyle Connor, qu'on mentionne rarement parmi les grandes vedettes de la Ligue nationale, mais hier, il en marque deux encore, rendu à 65 points. Puis je sens aussi que la profondeur chez le CH commence à être de plus en plus mince. On voit que la perte d'Emile Heinemann fait mal. Saint-Louis est obligé de bouger ses deux derniers trios. C'est plus difficile pour l'unité de Pezzetta, Dvorak, Gallagher. Pezzetta, quand il saute sur la glace, ce qui est quand même assez rare. Puis Anderson, Evans, Armia, bon, on ne recrée pas la même étincelle qu'on avait il y a quelques semaines. Puis surtout, Nick, Guillaume, je suis convaincu qu'on va venir sur le sujet, mais là, l'éléphant dans la pièce, c'est la blessure à Caden Goulet. C'est un gros domino qui vient de tomber. Puis ça risque de faire mal à plusieurs endroits. C'est le type de joueur que tu ne peux pas remplacer. Puis moi, au moment qu'on enregistre, on ne connaît pas encore le verdict médical. Faut être prudent. On pourrait toujours avoir droit à un miracle dans quelques heures. Mais quand Martin Saint-Louis, souvent, quand il parle d'un blessé, sa phrase, c'est « la Ligue va continuer, puis on se fiche un peu de ce qui arrive. C'est au prochain à prendre le relais. » Hier, ça n'a pas été le cas. Il a parlé d'une absence qui fera mal, d'un joueur important de la ligne bleue. Puis avant même le début de la conférence de presse, Charles Saint-Don-Courtois, qui est responsable des communications chez le CH, a pris la parole pour dire, bon, écoutez, blessure au bas du corps, on aurait besoin d'une évaluation plus approfondie. Par mon expérience, là, c'est des signaux qui annoncent rien de trop bon. Puis autre élément aussi, l'ambulance qui est généralement devant le vestiaire, en cas que Guillaume devienne trop nerveux pour écrire son texte. L'ambulance avait quitté les lieux, donc il y avait peut-être déjà un rendez-vous chez le doc hier soir pour Caden Goulet.
C'est d'autant plus qu'on a vu comment cette équipe-là réagit l'année dernière, les dernières années, quand il y avait des blessés. En début de saison, quand il manquait un Patrick Laine. Cette équipe-là a trouvé son air d'aller lorsque tout le monde est un peu tombé dans sa chaise, plus l'arrivée d'Alexandre Carrier. T'sais, tu l'as dit, Emile Heinemann, c'est pas Connor McDavid, mais sa chaise, ça lui appartenait.
C'était 13 bonnes minutes par match.
Ben, c'est ça. Puis là, on perd ça. Donc là, tu demandes, on joue à 11 défenseurs, peu importe. On cherche des solutions.
11 défenseurs, ça fait beaucoup, oui. Sonic.
11 attaquants.
11 attaquants, sur défenseurs. Gros, tu sais. Jacques Lemaire l'aurait peut-être fait une fois, mais pour le reste... Mais c'est ça, on perd cet équilibre-là. Hier, Martin Saint-Louis a tenté des choses, a modifié ses duos de défenseurs, mais on a perdu cet équilibre-là. Et là, avec Caden Goulet, qui visiblement ne ratera pas seulement un ou deux matchs, j'ai l'impression que c'est un château de cartes qui commence... autant que ça allait bien, là, le château de cartes peut rapidement s'écrouler, même si, comme tu dis, oui, tu veux prendre la relève. La réalité, c'est que c'est mince en termes de profondeur dans l'organisation complète des Canadiens, ce qui est normal. Je veux dire, il n'y a pas si longtemps que ça, la course aux séries éliminatoires, c'était pas une discussion qu'on avait là, sur le balado. Ça change, mais je vois mal qui présentement peut rappeler ou peu importe, peut prendre la place de façon adéquate de Caden Goulet. À vrai dire, j'en vois pas. Là.
Non, du côté fiabilité défensive, c'est certain que tu n'as pas d'éléments qui peuvent apporter ce que Goulet apporte. T'sais, on va probablement voir le rappel de Jaden Struble qui est allé jouer quelques matchs à Laval parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas enfilé les patins à Montréal.
Le timing va avoir été bon pour aller faire ce conditionnement-là de se délier les jambes
Assurément, mais au niveau de la fiabilité défensive, on n'est pas dans la même ligue que Caden Goulet. Les autres options, Adam Engstrom, on ne l'a pas vu encore cette année. Est-ce que ça peut être une option? Logan Mailloux connaît un petit peu de difficulté, quoique récemment, c'est remis à produire. Mais en début de saison, on l'a vu défensivement dans la Ligue nationale, c'était parfois difficile. Donc ça, c'est la perte. Un Heinemann, on le voit, ça commence à faire mal, mais tu peux survivre sans un Emil Hanneman. Tu peux trouver des alternatives. Je trouve ça curieux un peu que le Canadien s'entête à utiliser Pezzetta pour 5 minutes par match parce que là, des fois, on voit Dak prendre une présence sur ce trio-là, Anderson, tout ça. T'en demandes quand même un peu plus à tout le monde. Puis je pense qu'au final, ben ça débalance un peu tout.
Est-ce que c'est une question de respect, l'utilisation de Pezzetta? Parce qu'il mange du pain noir depuis le début de l'année.
Ah, moi, je pense qu'il y a beaucoup de fidélité. Pezzetta reste le bon coéquipier qui n'a pas dit un mot plus haut que l'autre. Quand même passé, là, je me souviens plus du chiffre exact, là, mais près de 30 matchs d'affilée dans le gradin. C'est rare que tu vois ça au sein d'une équipe de la Ligue nationale.
C'est quoi,
et l'autre alternative, peut-être aussi que les joueurs se disent, ben regarde, on veut s'en sortir à l'intérieur du vestiaire avec le 22 ou le 23 joueurs présents. Mais il y a peut-être de l'entêtement aussi. Hier, c'est pas une question de frapper sur le clou de Pezzetta, là, mais il y a une chance de marquer, il y a une chance de créer l'égalité 2-2 sur un retour de Gallagher. Trébuche en voulant prendre le retour. Un Pezzetta en confiance, un Pezzetta qui a plus de minutes dans le corps, probablement qu'il le marque, ce but-là. Résultat des courses, Pezzetta ne marque pas et quelques minutes plus tard, bien, les Jets assomment le CH avec un troisième but quand il restait... C'est quoi, Guillaume? 1,5 secondes, je pense, au cadran. Donc, mais je serais pas surpris de voir Raphaël Harvey-Pinard là, jeudi peut-être contre le Wild. Maintenant que le CH vient d'en perdre 3 d'affilée, on peut se tourner vers Harvey Pinard, mais même sans rien enlever à Raphaël Harvey Pinard, ne connaissait pas la saison rêvée. Il est le premier à dire qu'il a eu besoin de beaucoup de temps pour revenir de sa blessure à une jambe, avait moins d'explosions, ses premières enjambées étaient plus difficiles. On verra. Mais écoute, 5 minutes à Pezzetta ou 6-7 minutes à Harvey Pinard, je crois que ça vaut la peine de l'essayer.
Mais je pense aussi que du côté des joueurs, on s'en plaint pas. Ben, premièrement, je pense que le fait que Pezzetta est un gars d'équipe, puis je pense qu'il est très apprécié de ses coéquipiers. Les joueurs aiment ça qu'il fasse partie du groupe aussi qui joue. Mais d'un autre côté, je pense que les gars se plaignent pas d'avoir une présence ici et là sur le quatrième trio parce que ça augmente un peu leur temps de jeu. Ça leur donne plus d'occasions de se faire valoir. Fait que je pense que pour eux, pour le reste de la gang, c'est plaisant, mais
ça marche pas.
Mais c'est ça, on remarque, plus ça va, plus on remarque ce serait temps que Kahneman guérisse puis qu'il revienne parce que honnêtement, le trio qu'il formait avec Evans et Armia. Ça a été un des plus constants depuis le début de la saison. T'sais, ça amenait un élément. Justement, on parle de profondeur, ça amenait la troisième vague, tu sais, après les deux premiers trios, mais t'avais le troisième qui embarquait puis qui pouvait générer des choses offensivement. Là, on le voit moins. Quoique, tu sais, Gallagher, hier, a connu un fort match, a eu quand même des bonnes occasions, mais c'est plus difficile. Je pense qu'on en demande un peu plus de la part de tout le monde, puis là, on commence à voir, là, surtout avec le volume de match, les déplacements, tout ça, je pense qu'on commence à voir un peu la fin de cette séquence-là.
Puis ça ira pas nécessairement mieux parce que là, bon, le Wild s'en vient ici jeudi à Montréal. C'est une grosse commande. Et par la suite, un voyage dans l'Ouest californien qui est jamais ou à peu près pas une grande réussite pour le tricolore. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les Ducks et les Sharks sur papier sont des équipes qui ne devraient pas donner une grande adversité au tricolore. Après ça, il y a les Kings qui vont être plus compliqués. Ensuite, bon, ben, samedi, c'est le samedi du Super Bowl. Oui, la fin de semaine du Super Bowl, les Devils de Lightning, et ensuite, on tombe en pause. On avait parlé un peu de... Il fallait que le tricolore tienne jusqu'à cette pause de la confrontation des quatre nations. Parce qu'après ça, le calendrier des Canadiens est un des plus faciles dans la Ligue nationale. Est-ce que vous trouvez qu'avec ce que vous voyez, tu sais, est-ce qui s'en vient, il y a une possibilité de rester dans cette course-là, dans les quoi? Il reste 5-6 matchs à jouer là, d'ici à la pause. Là. Est-ce que les Canadiens, présentement, ce qu'on est en train de vivre, c'est un début de boule de neige qui va faire qu'on sera plus. On réussira pas à s'accrocher jusqu'à cette pause-là? Ou vous voyez quand même assez de signes positifs?
Ben moi, j'ai des doutes à savoir si on peut freiner justement la boule de neige, pour reprendre ton expression. En même temps, cette même équipe-là nous a fait mentir plus d'une fois cette année. Puis il y a du caractère à l'intérieur du vestiaire, faut le reconnaître. Tu parles d'un calendrier qui n'est pas facile. Le voyage en Californie, il ne faut pas oublier, c'est 3 matchs en 4 soirs. Les Ducks, les Sharks ont beau être des équipes à portée, mais ils ont quand même des résultats dans les dernières semaines. Ce n'est pas catastrophique. Puis celui qui a conçu l'horaire aussi, là, c'est Anaheim, San Jose, qui est au nord de la Californie, et on revient ensuite chez le voisin à Los Angeles. Donc, il y a quelques déplacements, mais je trouve qu'on dit, est-ce que le CH peut se maintenir jusqu'à la confrontation des quatre nations? Je trouve qu'il y a un enjeu, oui, pour le classement, pour la lutte pour les séries, mais il y a un enjeu aussi sur le bureau de Kent Hughes et Jeff Gorton. Si le CH glisse encore un petit peu, qu'est-ce que tu fais avec des futurs joueurs autonomes? Yoel Armia, Christian Dvorak, Jake Evans. Si jamais Jake Evans est moindrement gourmand et si tu obtiens une offre mirobolante pour Jake Evans, est-ce que tu peux te laisser tenter? C'est des discussions qui vont avoir lieu dans les hautes sphères de l'organisation. Puis ça risque une réponse cliché, là, mais je pense que le verdict médical de Kaden Gooley va donner beaucoup, mais beaucoup de réponses.
Mais c'est surtout qu'en revenant de la pause des quatre nations, c'est 6 matchs avant la date limite des transactions. Fait que les décisions vont devoir se prendre rapidement. On dirait que c'est loin, là, la date limite, mais avec cette pause-là des quatre nations, je pense que on va avoir un début de réponse à la pause, puis après ça, les 2-3 premiers matchs qui vont suivre la pause, ça va être là que ça va... Ça passe sur sa case, c'est là que Kent Hughes va devoir prendre ses décisions parce que ça vient très, très vite. Puis comme disait GF, j'ai l'impression que si Kaden Gooley est absent pour, disons, 3-4 semaines, j'ai l'impression que le Canadien va peut-être se tourner vers le côté des vendeurs à la date limite. Là.
On a quelques résultats d'avoir une réponse là, assez rapidement. Là.
Mais même là, c'est un enjeu. On dit rapidement, on pourrait se tourner du côté des vendeurs, mais juste pour l'image, si tu choisis de vendre, c'est une équipe qui s'est battue, qui a réussi à revenir dans le coup. Je pense qu'il mériterait quand même de garder les pièces du casse-tête intactes, de poursuivre cette route-là. Ça dépend toujours du retour. CH en ce moment n'a pas besoin d'un choix de troisième tour additionnel ou un choix de quatrième tour. Il y en a, en veux-tu, en voilà. La banque de choix est bien garnie. Mais si une équipe choisit de bouger et offre un des très bons espoirs de l'organisation ou un choix de fin de premier tour pour un Jake Evans, par exemple, tu n'as pas le choix d'y réfléchir. Là. Ça dépend aussi. Si tu crois que Jake Evans va revenir pour les 3 prochaines années, à un salaire décent, moi, je pousse pour cette alternative-là, pour cette option-là. Mais si Jake Evans veut un petit peu trop d'argent, s'il demande 4,5 millions, mais est-ce que tu viens débalancer ta hiérarchie? Le contrat est souvent aussi important que le joueur. Donc, voyons voir ce qui va arriver.
Ça, c'est un point important qu'on discutait au Salon Jacques Beauchamp cette semaine avec les collègues. On a souvent des discussions.
On a souvent très des discussions très sérieuses.
Oui,
absolument.
Puis ce qui est important de le préciser, à un moment donné, c'est que.
En deux visites au buffet de dessert. Là.
Exact. les tiramisu ces temps-ci sont excellents, d'ailleurs.
Le gars, il va au gym le matin, il faut qu'il mange des desserts le soir, hein, Guillaume. Hein?
C'est ça. Faut se gratter une fois de temps en temps. Mais tout ça pour dire qu'on avait une discussion par rapport à la transaction de Mikko Rantanen. Puis, tu sais, les discussions qu'on a entendues qui disaient que ça aurait débalancé la hiérarchie, qu'il aurait été payé plus cher que MacKinnon. Mais faut pas oublier que. Tu sais, c'est des contrats qui se sont signés il y a 2, 3, 4 ans.
En pleine pandémie.
Ouais. Et là, le plafond salarial fait juste augmenter d'année en année. Fait qu'à un moment donné, le contrat que tu as signé en 2019, tu sais, en termes de valeur à cette époque-là, c'était parfait. Mais là, si tu te pousses 5 ans en avant, ben c'est sûr que ta hiérarchie va peut-être être débalancée parce que là, tu as plus d'espace sur le plafond. Puis je veux dire, c'est comme l'inflation. Il faut que tu payes tes joueurs plus cher. Puis. Cet argument-là de hiérarchie, je pense, hiérarchie salariale, je pense que plus on va avancer, moins ça va être quelque chose dont il va falloir prendre compte parce qu'à un moment donné.
Les agents y entendent ça, puis ça doit bourdonner dans leurs oreilles. Là. C'est du hockey, là, on le sait, là, le code, puis les gars de hockey sont fidèles, là, mais... contrairement à d'autres sports où. Les gars pensent, je trouve, il y a d'autres sports où les gars sont un petit peu plus individualistes, pensent un peu plus à leurs affaires, puis à faire le gros cash. C'est un principe-là de hiérarchie. Écoutez, peut-être les gens qui nous écoutent ne seront pas d'accord avec moi, là, mais je veux dire, ça existe presque uniquement au hockey ou du moins dans les quatre sports. Là. C'est un des seuls endroits où ça existe, puis je pense pas que ça va continuer à exister longtemps pour tout ce que tu viens de dire, parce que là, le plafond est de retour à la hausse, les revenus sont à la hausse. À un moment donné, tu regardes, tu te retournes, puis t'es Mikko Rantanen. OK, MacKinnon fait quoi? 12 millions, a signé il y a deux ans?
12,6 de mémoire,
c'est
MacKinnon.
Ça, parce que signé il y a 12 ans, ben, aujourd'hui, il signerait à 15 millions. Donc, à un moment donné, si moi, c'est le prix qu'est-ce que MacKinnon signerait aujourd'hui, je considère que je vaux un peu moins, je vaux 14 millions. Oui, je fais plus que ce que MacKinnon fait, mais au final, il faut que tu ajustes un peu tout, puis...
C'est ça.
Ça, c'est sûr
que tu l'ajustes selon l'espace sur le plafond salarial. Je veux dire, au final, ça va revenir, tout va s'équilibrer. Je ne suis pas un pro des maths, là, mais je me dis que avec plus d'espace, tu peux offrir un peu plus, mais en valeur en termes d'années qui se sont écoulées, je pense que ça va. Ça risque d'être la variable est probablement la même. Là, c'est,
mais souvent, la donnée la plus importante, c'est le pourcentage que le contrat occupe par rapport à la masse salariale. Mais celui, il y en a un qui a compris ce concept-là, c'est Auston Matthews. C'est un des. C'est pratiquement le seul, la grande étoile de la Ligue nationale qui a toujours opté pour des contrats 5 ans, 4 ans. Résultat, quand. Son contrat vient échéance, mais il est toujours capable de le maximiser. Il n'a jamais dit oui à un 8 ans, Auston Matthews. Mais le revers de la médaille, les Maple Leafs, depuis des années, manquent de profondeur, manquent un petit peu de sous aussi pour les 3e, 4e trio, 4, 5, 6e défenseurs. C'est une équation mathématique à tous les ans pour Brad Treliving. Il va avoir le même problème quand on va vouloir reparler à Mitch Marner. Donc, est-ce que... Mikko Rantanen demandait trop, c'est une possibilité, parce que sinon l'Avalanche aurait probablement gardé les services de Mikko Rantanen. Mais tu sais, on parle de hiérarchie, mais il y a Cale Makar aussi qui va passer à la banque. Je crois que il reste deux autres saisons à 9 millions. Cale Makar ne gagnera pas 9 millions encore longtemps. Là, il va vite tomber dans les eaux du 14 millions. Donc, c'était une décision courageuse du côté du Colorado, mais ils ont choisi d'échanger immédiatement Rantanen, plutôt que de faire un John Tavares et de absolument rien obtenir en retour, comme les Islanders avaient fait il y a quelques années.
Écoute, on est dans le sujet, je gardais ça pour plus tard dans l'émission, mais on peut en parler tout de suite. Parlons-en de cette transaction-là. On reviendra au Wild tantôt là, pour le match de jeudi. Écoutez, c'est rare qu'on voit une telle transaction en plein milieu de la saison avec les réalités du plafond salarial. C'est un signe aussi qu'on a un peu plus de marge de manœuvre sous le plafond salarial pour les équipes. Qui justement peuvent un peu plus s'adapter. On parle, c'est pas comme si on avait donné Rantanen. On a quand même été chercher Martin Nekash, on a été chercher Jack Drury. Taylor Hall, échange à trois. Là. Taylor Hall qui, lui, s'en va en Caroline. Les Blackhawks qui ont retenu un peu de son salaire contre un choix de troisième ronde. Il y a d'autres choix. Il y a des choix aussi, deuxième choix, quatrième ronde aussi, d'impliquer là-dedans. Quand vous regardez cette transaction-là, quelle équipe est gagnante selon vous? Qui remporte cette transaction-là?
Ah ben écoute, une équipe qui met la main sur Mikko Rantanen, je veux dire, ça prendrait un très très gros retour pour dire que cette équipe-là est perdante dans l'échange. Tu sais, Rantanen, je pense avec vous sur le podcast il y a quelques semaines, on parlait des meilleurs joueurs, des joueurs les plus utiles à leur équipe, puis on a comme oublié Rantanen parce qu'on l'oublie toujours, parce que c'est un joueur qui passe un peu sous le radar, mais tellement, tu sais, je veux dire, il y a un apport dans tellement d'aspects du jeu que je vois mal comment les Hurricanes peuvent perdre cet échange-là. Tu sais, je considère qu'avec un Nekash puis un Jack Drury, bon, tu t'es dégarni un peu, mais pour mettre la main sur un joueur de cette trempe-là, je veux dire, c'est pas... pour ma part, c'est assez clair que les Hurricanes ont gagné ça, puis qu'ils sont équipés, tu sais, dans les dernières années, c'était souvent une équipe qui était compétitive en série, mais quand ça arrivait au moment important, tout quand ça, il manquait une petite affaire, tu sais. Puis la petite affaire, ben là, avec un Rantanen, je pense que tu viens de donner toutes les chances de passer à la prochaine étape. Puis c'est un peu là que les Hurricanes étaient rendus dans leur cycle. À un moment donné, il fallait que ça débloque, qu'il y a de l'aide autre que la simple progression des éléments qui étaient déjà là. Puis c'est ce qu'on est allé chercher avec Rantanen. Donc, je vois mal comment les Hurricanes ne veilleraient pas longtemps au printemps.
Guillaume parle de petites affaires, mais on parle quand même d'un gars de 6 et 4, 215 livres. Donc, c'est aussi un gros bonhomme qui débarque à Raleigh en Mikko Rantanen. Mais avant de proclamer un gagnant, je pense qu'il faut attendre quelques mois voir le résultat des Hurricanes en série, mais surtout, est-ce qu'ils vont réussir à lui offrir une prolongation de contrat? Est-ce qu'ils vont le garder dans le giron de Raleigh, de la Caroline? Il y a l'avantage, la carte finlandaise avec Sébastien Aho, deux très bons amis. Probablement qu'il y a déjà Kotkaniemi aussi, qui était encore jeune. À quel âge seulement, Kotkaniemi, maintenant?
23, 24
peut-être. Et bon, là, on divague, on s'éloigne un peu. J'imagine que Eric Kluski est conscient de cette réalité-là. Il a probablement déjà eu des pourparlers aussi avec l'agent. Il doit considérer qu'il y a des chances de retenir Rantanen à long terme à un salaire de peut-être 12,5, près de 13 millions. On va parler de gros chiffres pour Mikko Rantanen, mais c'est un gars qui a eu deux fois 100 points. Moi, j'ai surtout hâte de voir l'effet d'une bombe là, pour Nathan MacKinnon, pour Cale Makar, pour Arturi Lehkonen, de perdre un aussi bon coéquipier que Mikko Rantanen. Oui, Nekash, la meilleure saison de sa carrière, mais Martin Nekash n'est pas encore Mikko Rantanen. Puis qu'est-ce que l'Avalanche va faire en série? Ça peut-être court-circuiter un petit peu l'équipe.
J'ai hâte de voir ce que Nekash. Bon, 4 points, 4 passes.
Ouais, pour l'instant, ça va quand même bien.
Matchs. Rantanen n'a pas pour le critiquer, mais une passe en deux rencontres, ça va prendre du temps. C'est sûr que le choc est beaucoup plus difficile à absorber pour Rantanen. Tandis que Nekash, il y avait beaucoup de rumeurs qu'il avait demandé une transaction. Les négociations de contrat étaient difficiles avec les Hurricanes. C'est pas nécessairement une surprise de voir Nekash partir à ce moment-ci de la saison ou de sa carrière ou peu importe. Mais il reste que l'Avalanche, je ne sais pas, il est où le plafond de Nekash. Rantanen, je m'en doute un peu. J'ai hâte de voir la différence de ce que ça va donner entre ses performances avec MacKinnon et Makar versus bon, ce qu'il va faire avec Aho. Le front défensif. Il n'y a pas de Makar, corrigez-moi, mais il n'y a pas de Makar là, du côté des Hurricanes. Est-ce que Rantanen est un joueur de 100 points avec les Hurricanes? Je ne suis pas certain. Est-ce que Nekash est un joueur de 100 points avec l'Avalanche? Ça se pourrait. Et, bon, Nekash là, est à la première année d'un contrat de 2 ans, fait 6,5 millions. Cette transaction-là permet à l'Avalanche de garder sa fenêtre ouverte pour plusieurs années encore, j'ai l'impression. Si on vient s'entendre avec Nekash, là, parce que, bien évidemment, lui, il va être joueur autonome sans compensation dans 2 ans, mais c'est une fenêtre qui s'ouvre. On dit souvent, on parlait des Leafs tantôt. C'est la même chose. Manque énormément de profondeur chez l'Avalanche. Souvent, On a des projets, excusez le terme, le Reclamation Project, là, des deuxièmes chances. T'sais, Jonathan Drouin en est une tentative de deuxième chance, puis on va chercher un peu ça. Puis oui, on est Chris McParland puis Joe Sakic, on est très créatif, mais là, on vient d'aller chercher un joueur qui, avec un peu de chance, l'été prochain, on va s'entendre avec lui pendant longtemps. Puis j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'il va fournir comme statistique, alors qu'il va être beaucoup, beaucoup mieux entouré. Et il va être le numéro un aussi là-bas, là. Ce qui n'était pas toujours le cas avec les Hurricanes. Seth Jarvis qui n'était jamais trop loin aussi. Rod Brind'Amour ne lui a pas toujours fait confiance. J'ai vraiment hâte de voir comment il va s'intégrer là-bas.
Oui, mais c'est certain. Il n'y a pas de doute que dans cet échange-là, il y a une grosse équation mathématique. Puis l'an prochain, à 6,5 millions, n'est catch, mais ça donne un coussin de 5-6 millions comparativement au salaire que tu donnerais à Rantanen. Pour aller chercher de la profondeur, pour peut-être re-signer un Jonathan Drouin, pour aller chercher un défenseur de plus. Donc, c'est juste, on sait comment que ça se passe dans un vestiaire d'une équipe de la Ligue nationale, mais je dis on sait. Mm-hmm. On les côtoie assez souvent, mais ils viennent de perdre un coéquipier, un ami avec qui ils ont gagné la Coupe Stanley. Il y avait eu 25 points aussi en 20 matchs l'année où l'Avalanche a soulevé le gros trophée. J'ai simplement hâte de voir les répercussions à court terme de cette transaction. Mm-hmm.
Ouais, puis tu sais, en voyant les commentaires de Nathan MacKinnon, je pense qu'il était questionné justement sur la hiérarchie salariale de l'équipe, qui a dit, tu sais, moi, je m'en fous, Mikko méritait cette augmentation-là. Puis, tu sais, MacKinnon, là, on a entendu assez d'histoires sur lui pour savoir que tout ce qui lui importe, c'est de gagner. Puis, tu sais, lui, c'est la Coupe Stanley chaque année, puis il est focus là-dessus. Là, son DG vient de lui enlever un gros élément là, qui aurait pu lui permettre justement de d'aller loin en série. C'est un ami, tout ça. Fait que j'ai l'impression que ça va prendre peut-être, là en ce moment, je pense que c'est une victoire, deux défaites, là, l'Avalanche depuis la transaction. Je pense que ça va prendre peut-être quelques semaines pour justement que tout le monde retrouve sa concentration puis se remette en mode série, parce que tu sais, on le mentionne, là, la fenêtre est encore ouverte pour l'Avalanche, mais les séries, c'est pas quelque chose qui est acquis cette année. Là, on est en première place de 4e mars, mais quand même, il faut maintenir le rythme, il faut maintenir la cadence. Donc, je pense que ça va prendre quelques semaines, mais j'ai bon espoir là, que tout se place, parce que l'Avalanche, je veux dire, avec les éléments qu'ils ont sous la main, l'expérience,
L'arrivée de Mackenzie Blackwood aussi, qui a beaucoup changé.
Exact, je m'en allais là. Le changement des deux gardiens, tout ça, je pense que c'est une équipe qui a les éléments pour participer aux séries puis faire une autre run. Mais à suivre dans les prochaines semaines, parce que c'est sûr que ça a un gros impact là, sur l'équilibre du vestiaire.
Puis il y a le facteur Gabriel Landeskog aussi. Je ne sais pas si ça a lien avec ça, mais Landeskog, son salaire, s'il décide de revenir au jeu avant la fin de la saison, ça compte. S'il revient en séries éliminatoires, t'sais, il y a beaucoup d'éléments chez l'Avalanche qui font que si ça regarde bien pour Landeskog, puis on est confiant, on dit qu'il s'entraîne, puis on l'évalue mois par mois. Là. Donc, t'sais, ça demeure extrêmement flou. Là. Mais si Landeskog est capable de revenir, faut que tu intègres son salaire, tout dépendant. Faut que tu l'intègres pour les prochaines saisons aussi. C'est l'autre chose, là, c'est qu'il revient cette année.
Je comprends tout ça, mais tu sais, si tu as basé ton plan sur Landeskog qui n'a pas joué un match dans la Ligue nationale depuis les séries de 2022...
Non, mais...
Je sais pas, tu sais, c'est... Il va revenir... S'il revient au jeu, c'est une belle histoire, tout ça, mais mm-hmm. quelle sorte d'impact un Landeskog après... Ça va faire presque 3 ans, tu sais, qu'il n'a pas joué dans la Ligue nationale. Qu'est-ce que ça va donner comme impact? Je comprends qu'il faut que tu prévois en conséquence, parce que c'est un salaire, puis il y a des règlements sur la masse salariale, là, mais c'est un gros pari, je trouve, pour un joueur qui est absent aussi longtemps.
C'est ça. Donc, soit Landeskog ou des renforts peut-être un peu plus coûteux à la date limite des transactions. Mais il faut voir, parce que je pense que le capitre de Rantanen était quand même... Cette année, il y avait comme... En tout cas, je regarde sur Internet, mais on dirait que son capitre cette année était moins élevé. Je ne sais pas, avec les bonnies, les ci, les ça, mais je vois 4 millions. Là, en tout cas, je
non, c'est parce qu'il y a une retenue salariale les Blackhawks ont joué le joueur.
Ben oui,
joueur
il est passé. Ben oui, c'est ça. OK, merci.
On joué les financiers dans cette transaction.
Ben oui, oui, oui. Ce qui a fait qu'on a gardé du salaire, mais on a échangé tout à l'heure.
C'est 9,25 son salaire.
Voilà. Donc, Connor Bedard qui doit commencer à se sentir un peu tout seul du côté de Chicago. Là. Vient de perdre un des quelques vétérans qui étaient dans cette équipe-là. Vétérans qui... T'sais, rien contre Nick Foligno, puis ça a l'air que c'est un capitaine, c'est un king là, au niveau leadership, mais il reste que Taylor Hall est passé à travers des affaires de parmi de la crème de la crème. Il a été dans la crème de la ligue, ce que Nick Foligno n'a pas. Donc, il y a peut-être, quand tu poses des questions, des fois, c'est peut-être pas la même réflexion exactement. Juste en terminant, cette transaction-là, est-ce que c'est ce que ça prenait à l'Avalanche, pas à l'Avalanche, excuse, aux Hurricanes? Tu en as parlé un petit peu, Guillaume, là, mais. Est-ce que vraiment on va être capable de... Tu sais, la semaine dernière, on parlait de... Est-ce que les Capitals sont vraiment une équipe aspirante à la Coupe Stanley? Bon, on n'était pas sûr. T'sais, on regardait la profondeur, même si on est numéro un au classement présentement. Quand on regarde présentement les Hurricanes, on est deuxième dans la métropolitaine, on est loin des Capitals. Mais cet ajout-là, est-ce que c'est la... Enfin, ça va débloquer en séries éliminatoires ou manque encore quelque chose?
Ben écoute, devant le filet,
je suis assez confiant de ce côté-là. Là. J'en ai parlé un peu tantôt. Je pense que c'est l'élément qui va leur permettre d'aller un peu plus loin que d'habitude, mais je suis curieux d'entendre JF là-dessus.
Ben écoute, on parle déjà d'une équipe qui peut se rendre loin en série, qui l'a fait dans les années passées, mais souvent le même bobo se retrouve devant le filet. Frédéric Anderson, Pietr Kochetkov, Anderson. Sans lui souhaiter de malheur et à une blessure près de s'absenter encore plusieurs semaines, plusieurs mois. Pietr Kochetkov est un bon jeune gardien, mais pas énormément de bagages. C'est possible. C'est possible. Dans l'Est, je trouve que ça reste ouvert. Écoute, t'ajoutes un gars de 100 points à une bonne équipe, mais tu viens d'en soustraire un, Martin Nekhatch. Mais Nekhatch n'avait jamais été renversant non plus en série sous Rod Brind'Amour. Faut pas les retirer de l'équation, ça, j'en suis persuadé.
Puis tu sais, on dit souvent qu'une équipe doit apprendre à perdre avant de gagner en série. Puis ça, les Hurricanes, dans leur cycle, c'est ça. Je pense qu'ils ont appris. Ils savent ce que ça prend. T'sais, ils ont atteint la finale de l'Est aussi. Je pense que c'est une équipe qui est le noyau de cette équipe-là. Et prêt à passer à la prochaine étape. Puis là, tu ajoutes de l'expérience, tu ajoutes du talent. Je pense que ça se pourrait. C'est une possibilité.
On va avoir la réponse dans 4 mois, dans 5 mois. Mais bon, là, on peut le dire, là, la période de la date limite des transactions, tout ça, là, ça disons que ça a lancé le tout avec un gros boom. On va suivre ce qui va se passer ailleurs. D'ailleurs, si vous voulez aller lire un peu ce qui se passe, le roman Savon du côté de Vancouver, où Elias Pettersson, pas Elias Pettersson, l'autre Elias Pettersson, parce qu'on est rendu avec deux Elias Pettersson.
Celui avec deux S ou avec un S?
C'est celui avec deux S.
Deux S.
Et en chicane avec JT Miller, hier même, Jim Rutherford, qui est le président des opérations hockey, qui... Tu sais, des fois, là, moi, j'ai juste un enfant. Toi, t'en as deux, JF. Tes deux filles, là, quand ils se chicanaient, à un moment donné, tu te lèves les bras et tu dis « OK, je suis plus capable », tu t'en vas dans une autre pièce. Là.
Non, je l'ai
vu hier matin. J'ai eu des coups de brosse à cheveux hier matin que je racontais.
Ouais. Donc, il y a des moments où tu abandonnes aussi.
Ouais, c'est ça. Puis j'ai l'impression que Jim Rutherford, là, mais là, c'est pas rien. Là. En plus, il parle même de peut-être Quinn Hughes, en ce sens que si je dois échanger Miller, Pettersson, parce que c'est à Bisbee, faut reconstruire, peut-être même Quinn Hughes pourrait partir. Oh, Vancouver, tu sais, Rick Tocchet.
Y a-t-il quelqu'un qui a pensé à mettre des caméras dans ce vestiaire-là? Ben, parce que, honnêtement, occupation double, ça a l'air d'être de la petite bière à côté de ça.
Ouais, puis, dans notre métier, toujours agréable, des intervenants hockey qui parlent, mais Jim Rutherford a beaucoup parlé. C'est quand même étonnant de voir qu'il dit, ben écoute, si jamais on doit échanger puis on doit repartir une reconstruction... Mais même le capitaine Quinn Hughes pourrait y goûter. Hier, avec l'histoire de la brosse à cheveux, j'ai eu le même réflexe. Je voulais échanger mes deux filles, puis je prenais la première proposition. Rosalie et Zoé vivaient sous une menace terrible là, le temps du trajet jusqu'à l'école. Mais après ça, tu parles, tu te calmes, tu mets un petit peu de l'eau dans ton vin.
puis tu l'invites au Centre Bell en soirée. Ça, c'est, ouais, c'est ça. Parfait, ça,
je trouve. Bravo, de la belle...
De la récompense.
De la belle discipline. Ah ouais, donc.
Bon, on va sauter au prochain sujet.
Ben, parlant de quelqu'un qui va être au Centre Bell, Marc-André Fleury va l'être jeudi.
Hey, quel avec lien les... magnifique.
Pas pire, hein?
J'en avais des frissons.
Ah, écoute, je m'améliore là-dessus. Du beau travail, là. Va être jeudi dans ce qui devrait, logiquement, à part si on se rend compte en séries éliminatoires, ça sera un concours de circonstances assez spécial.
On parlerait
parce
de
que,
la finale.
Non seulement de la finale, mais il faut que Fleury soit le gardien numéro un à ce moment-là. Ouais. Donc, c'est beaucoup de si. Ce qui devrait être donc le dernier match de Marc-André Fleury à Montréal, je pense que ça va être spécial. Marc-André Fleury va avoir marqué, tu y as parlé, le GF, ça va être spécial pour lui, mais on connaît la foule montréalaise. Comment elle a toujours en plus agi avec Marc-André Fleury. Souvenez-vous, quand il a joué son 500e match avec les Blackhawks, c'était à Montréal, si je ne me trompe pas, il y avait une ovation.
La 500e victoire.
500e victoire, excuse-moi, oui, pas 500e
match. Même l'année passée, quand on pensait que c'était peut-être son dernier match, il y avait eu une belle réaction de la part de la foule. Demain, en sachant que... C'est vraiment... la répétition, c'était l'an passé. Ouais, c'est là, c'est la vraie chose demain. Je pense que ça va être assez spécial.
Tu y as parlé, JF. Lui, on sait, Fleury. Il me semble que Fleury a toujours bien joué contre les Canadiens à Montréal. Il y a toujours un petit... Je vais sortir sa fiche. Je suis curieux. Je vais aller vérifier tout. Non? Oui? Non? Non?
Ben, hey, rappelle-toi des séries.
Ça compte pas au classement, ça. C'est...
Ah, OK.
Oui, effectivement, il y a eu le petit hiccup contre...
Écoute, son dossier à Montréal, 12 victoires, 6 défaites, 3 autres revers en prolongation de tir de barrage, 2.67, 911 et 2 jeux blancs en 21 matchs. Donc, c'est loin d'être une catastrophe.
C'est ça.
Sa saison, ça va bien. Il y a eu le petit problème avec les Golden Knights l'année du périple des Canadiens vers la finale, mais
Non, ça, c'était Robin Lennaire.
Fleury. Le but, il sort de son filet. Là.
Ouais. Mais ce que j'avais en tête, c'était 2010, le printemps à Lac.
Le printemps à Lac aussi, ouais.
Ça avait été difficile aussi pour Marc-André Fleury série-là.
Ben écoute, c'est un match de saison demain. Fait que ça, c'est
peu importe. C'est surtout un match qui va être excessivement émotif pour Marc-André. Puis il me disait au téléphone, là, on s'est parlé vendredi dernier, il disait qu'en vieillissant, devient de plus en plus émotif, a de la misère à retenir ses larmes. Pour reprendre ses mots, il me disait qu'il devient plus mou. Il dit c'est peut-être la paternité, 3 enfants.
Soft.
Donc, hâte de voir la réaction de la foule, mais même pour lui, sa sœur l'aide depuis déjà quelques semaines. Il y a un autobus qui va partir de Sorel, famille, amis. Véronique, la femme de Marc-André, fera le voyage avec les 3 enfants du Minnesota pour venir voir ce dernier match. Ce que je trouvais drôle aussi ou paradoxal, Marc-André Fleury a 40 ans maintenant, c'est un des deuxièmes gardiens de l'histoire pour le plus grand nombre de victoires. Puis il me disait, un petit peu gêné, je fais jamais ça en temps normal, mais là j'ai accroché Frédéric Chabot, l'entraîneur des gardiens, pour lui dire, on a 2 matchs en 2 soirs, Toronto-Montréal. J'aimerais, s'il vous plaît, obtenir le départ à Montréal. Je pense que John Hines pouvait aussi...
Ouais, j'ose espérer qu'il y avait pensé.
J'ose espérer qu'il y avait pensé. Puis c'est la même chose pour Philippe Gustafsson, qui est un bon ami de Marc-André. Gustafsson, je suis convaincu que lui aussi s'est dit, mais regarde, je veux le départ à Toronto, laissons jouer Fleury à Montréal. Puis c'est toujours, avec Marc-André, c'est toujours assez sympathique au téléphone. Il dit tout ce que je souhaite, c'est un bon match. Je sais que la foule va pousser pour le CH. Il était très conscient que le Canadien était de retour dans une course pour une participation aux séries. Et je veux juste pas me faire défoncer. Ça, ce serait mon plus grand souhait, pas de ne pas connaître là, vraiment un mauvais match. Mais cette année, malgré ses 40 ans, encore de très bons chiffres. C'est un bon gardien numéro 2. Puis j'avais posé la question, comment qu'on se sent justement à 40 ans? Puis au départ, sa réponse, c'était... Ben écoute, il dit « Maintenant, je trouve les échauffements un peu plus longs qu'avant. Mon amplitude n'est plus la même. Mon explosion aussi, ma flexibilité. » Une réponse classique. Là. Il me parlait plus au niveau physique, comment il réagissait. Puis une fois qu'on a fini l'entrevue, il m'a rappelé pour me dire « J'aime pas ma réponse. » Quand tu m'as demandé comment je me sentais à 40 ans, Il dit, là, je vais être honnête, là. Il dit, je me sens souvent comme un gars qui joue dans une ligue de garage. Puis il dit, j'ai en tête de battre les petits jeunes dans la vingtaine. Mais il dit, ça tombe bien parce que ce soit Dobèche ou Montembeau, jeudi soir, les deux sont dans la vingtaine. Le petit vieux Marc-André Fleury aura peut-être une chance d'en gagner une de plus.
Le Wild qui connaît une petite baisse de régime aussi. Là, on a deux matchs. On est à Toronto, comme tu disais, mercredi. C'est une bonne. C'est un court voyage un peu peut-être eux pour se relancer. J'ai l'impression. C'est une situation où, d'après toi, vas-tu avoir un petit peu d'argent sur la table du coup d'investir du Wild, hein?
Oui. Non, non, ça, il n'y a aucun doute. C'est une équipe qui, dernièrement, a un creux de vague. Kirill Kaprizov s'était absenté.
Il va être absent quatre semaines, Kaprizov va récupérer.
Exact. Exact. C'est tout le temps difficile de maintenir un rythme pendant 82 matchs. Il y a souvent, justement, le mois de janvier arrive. C'est long, il fait froid. Mais à Saint-Paul, au Minnesota, il fait froid longtemps aussi.
J'ai déjà hâte au Mondial Junior en décembre prochain.
Oui, deux semaines après les charmes de Canada, Saint-Paul, Minnesota, pour l'ami Guillaume. Mais c'est une équipe qui a du talent là, avec Matt Boldy, Zuccarello, Eriksson Ek, Brock Faber à la ligne bleue. Pas trop nerveux pour le Wild que ça va se replacer assez vite.
Non, puis je sais pas si vous avez fait votre fabuleux Super 16 cette semaine, là, mais honnêtement, on dirait que dans le milieu de peloton, là, des 16 équipes qui sont pas
tout
mal en
série. Tout le monde joue
pour
500 à peu près.
Oui, ouais, c'est ça. Toutes les équipes ont des... Tu sais, il n'y a pas d'équipe qui est sur une séquence de 7 victoires à ses 10 derniers matchs. Là. C'est toutes des 5 victoires, 5 défaites. Tu sais, on sent que...
Ben,
je pense que c'est la passe du mois de janvier, puis on en a parlé la semaine passée, le calendrier condensé avec les quatre nations, là, ça, je pense que ça complique la tâche d'un peu tout le monde, puis ben, écoute, c'est la même chose pour tout le monde, fait que on pourra pas dire que c'est pas équitable, là, mais on voit une baisse de régime un peu partout à travers la Ligue.
En même temps, ça donne une bonne course aux séries, donc c'est pas désagréable.
Non, c'est ça.
Puis tu sais, n'importe quelle équipe peut gagner n'importe quel soir, donc... C'est le fun. On se plaindra pas.
C'est le fun.
Pas du tout. Hey, les gars, merci d'avoir été avec moi au balado aujourd'hui. Je vais vous laisser partir. Les auditeurs vont pouvoir écouter dans quelques minutes l'entrevue que j'ai faite avec Alex Chiasson. Mais avant ça, je vous laisse vaquer à vos occupations, puis on se reparle très fortement, très possiblement, devrais-je dire, des fortes chances.
Très fortement.
On peut y aller. On peut crier au prochain podcast.
Comment?
On fait juste crier au prochain podcast. On se parle fortement.
Oui, mais il y en a des podcasts de même, hein, que ça fait juste crier. Là,
ça, c'est le même effet sur les réseaux sociaux. Quand une personne te répond juste avec des majuscules, là, tu sens qu'il est vraiment fâché.
Il a
enfoncé la touche majuscule pour passer son message. Ouf! Ça peut faire peur.
Soit ça, quand tu reçois un courriel et c'est écrit en bas « Sent from my iPad ». Là, tu le sais qu'il y a peu de chances que ce commentaire-là soit constructif, que ça te mène à une belle réflexion sur ton travail ou peu importe. C'est souvent le contraire. Merci les boys d'avoir été là ce matin, puis on se dit à la semaine prochaine.
Yes,
à bientôt.
Salut.
Salut, au revoir. On poursuit l'émission avec notre invité, Alex Chiasson, qui a récemment annoncé sa retraite après une carrière de 651 matchs dans la LNH. Alex, qui a été un choix de deuxième ronde en 2009 des Stars de Dallas, va avoir finalement joué avec les Stars, les Sénateurs, les Flames, les Capitals, les Oilers, les Canucks et les Red Wings les Red Wings ont été sa dernière équipe en 2022-23, va avoir amassé 233 points durant ses 51 matchs dans la LNH et va avoir gagné une Coupe Stanley avec les Capitals en 2018. Alex, bienvenue à la tasse de café. J'espère que ça va bien.
Hey Nicolas, ça va bien toi?
Ça va très bien. Merci d'être là ce matin avec moi pour revenir sur cette belle carrière. On te parle, là, tu étais en direct de Boston. Ta deuxième maison, même si ta première maison, même qu'on pourrait dire, depuis tes années universitaires du côté de l'Université de Boston. Alex, écoute, fallait revenir sur cette carrière-là qui va avoir été, comme plusieurs diront, celle d'un combattant, celle d'un gars qui a décidé de s'accrocher malgré les étapes, malgré les murs qui sont parfois fait mettre devant lui, les défis. C'est quoi ta plus grande fierté dans cette carrière-là où tu as voyagé, on t'a pas toujours fait confiance, puis tu as réussi à persévérer. Quand tu n'avais pas de contrat, tu te pointais à des camps d'entraînement, puis tu prouvais ta valeur. C'est quoi cette plus grande fierté-là?
Oui, je pense, Nicolas, c'est exactement ce que tu viens de décrire. Évidemment, 650 matchs. J'ai gagné la Coupe Stanley en 2018 avec Washington. Au travers de ça, c'est comme tout autre joueur, il y a des années qui, côté statistique, qui ont été meilleures que d'autres, mais j'ai quand même toujours eu une certaine constance au travers de ma carrière. Mais je pense vraiment là, qu'est-ce que je suis plus fier, c'est qu'est-ce que j'ai pu créer au travers de mon ma carrière. Donc, à des moments où que je croyais possiblement avoir que je devrais avoir un contrat que je n'avais pas, aller sur des camps d'entraînement avec des essais professionnels. Je pense que c'est vraiment le point marquant peut-être de ma carrière où que je réalise que j'ai toujours cru en mes moyens. Il a toujours fallu que je me batte pour avoir un poste. Puis c'est un peu comme ça que je me suis ramassé avec 650 matchs là, au travers de ma carrière. Évidemment, je pense que ça faisait partie peut-être un peu de mon ADN que rendu à 500, t'en veux 600, rendu à 600, t'en veux 700, ça fait peut-être ça résume peut-être un peu la mentalité que j'avais au travers de ma carrière. Donc c'est sûr que pour moi, avec un peu de recul là, je réalise que évidemment je suis extrêmement fier de qu'est-ce que j'ai accompli, mais je pense que c'est aussi de la façon que je l'ai accompli que maintenant ça me rend fier. Puis j'espère un jour pouvoir démontrer à mes enfants ou les gens autour de moi c'est quelque chose d'important pour moi.
Tu as joué tes derniers matchs dans la LNH en fin de saison en 2022-23 avec les Red Wings. Tu as eu un essai au camp de Boston l'automne suivant, mais il n'y a pas eu de contrat. Tu aurais pu t'accrocher, l'Europe, la Ligue américaine aussi, mais quand est-ce que tu as regardé ça et il y a eu un déclic, tu as dit « Écoute, je suis satisfait de ma carrière, je suis prêt à passer à d'autres choses.
» Je te dirais, cette année-là, après Détroit, ça aurait été 2022-2023. Au mois de septembre 2023, je suis allé au camp avec les Bruins. Je me suis blessé un peu dans le camp. J'avais des offres pour aller dans la Ligue américaine, aller jouer en Europe. Puis, à la fin, dans le fond, là, au travers du mois d'octobre 2023, là, j'ai rencontré beaucoup de gens. Puis, finalement, je me suis fait opérer en janvier, ça fait un an, janvier 2024 à la hanche. J'ai fait ma rehab, j'ai fait tout ce que j'avais besoin de faire pour être prêt pour la saison au début du mois de septembre en 2024. Je suis allé au camp d'entraînement des Red Wings. Quand je suis revenu, j'ai pas obtenu de contrat là, au camp d'entraînement. Quand je suis revenu à la maison, je pense que c'est vraiment là que ça m'a, au mois d'octobre là, en 2024, je pense que c'est vraiment là que j'ai réalisé que j'avais quelques options. Évidemment, je n'avais pas joué pendant un an. C'est quand même une grosse opération. Mm-hmm. J'ai 34 ans, donc tu sais, dans le monde du hockey, maintenant, tu es un peu étiqueté comme plus vieux que la norme. Qu'est-ce qui me dérangeait pas, moi? Parce que j'ai 34 ans, oui, je sors d'une grosse opération, mais j'ai toujours très vraiment pris soin de moi, puis j'ai toujours mis l'emphase sur mon entraînement, puis comment que je pouvais être au niveau, admettons, physique à la plus haute hauteur de mes capacités. Je pense que quand je suis revenu là, au mois d'octobre, là, pour revenir là-dessus, je pense que pour résumer un peu, je viens juste d'en parler, j'ai toujours été un gars qui était vraiment à 100% dédié à ma carrière. Donc, que ce soit pour les matchs, les pratiques, la façon dont je me préparais pour être capable de performer à la hauteur du niveau que je voulais jouer. Puis quand je suis revenu de Détroit, oui, ça a été difficile à digérer. Puis je pense aussi que j'ai réalisé que je n'étais plus peut-être à 100% à vouloir mettre le temps et les efforts là-dedans. Puis pour moi, ça a comme été un peu l'élément déclencheur, peut-être, de penser à mes affaires. C'était comme... J'ai toujours cru en moi, j'ai toujours cru à la façon dont je voulais faire mes affaires. Puis, si je n'étais pas à 100%, je pense que ça valait pas la peine de continuer là-dedans. Donc, c'est un petit peu comme ça que ça s'est passé. Puis, c'est sûr que je m'ennuie un peu de tout ça. Je m'ennuie des coéquipiers. Je m'ennuie de la game, mais je m'ennuie plus de qu'est-ce qui fait partie de l'équipe de hockey. Là. Je pense que c'est vraiment
la chambre.
Je pense que c'est vraiment ça que je m'ennuie le plus. Mais j'ai pas de regrets, comme j'ai pas un goût amer ou tu sais, je suis vraiment bien avec ma décision. Puis je suis prêt à entamer là, le prochain chapitre là, de ma vie avec tout ça.
Quand tu regardes, six fois, tu as reçu des contrats d'essai là, pour les calendriers, tout ça. Y a-tu un moment donné où tu t'es dit, hey, il me semble que je mérite mieux? Il me semble que j'aurais dû, à un moment donné, signer un contrat plus long avec ce que tu faisais. Tu es un gros bonhomme, tu as de l'expérience, tu as gagné une coupe cette année, tu as été dans ces équipes-là. C'est un moment où tu t'es dit, donc, pourquoi ça ne roule pas pour moi? Pourquoi ça ne tombe pas en place avec une équipe puis rester avec cette équipe-là pendant quelques années? Il y a eu les Oilers d'Edmonton, c'était le fun pendant 3 ans. Puis encore là, tu es arrivé à Edmonton avec un essai. Tu as signé tout juste à la saison. Et tu, à un moment donné, tu t'es dit, coudonc, pourquoi ça décroche? Pourquoi je ne réussis pas à aller chercher ce contrat-là? Ça te travaillait-tu un petit peu ou non? Tu prenais ton appel et au pic, comme on disait, puis tu recommençais?
Ah, toutes les fois. Toutes les fois, honnêtement, là, ça me travaillait. Je sais pas, ça faisait peut-être partie un peu aussi de comment tout s'est passé au travers de ma carrière. Comme on dirait qu'à tous les étés, c'était comme un peu bon, la saison finie. Tu sais, j'ai une bonne saison. Je sais pas, moi, mettons, toujours autour entre 15 buts. Puis pour moi, qu'est-ce que je trouvais difficile, c'était de un, la façon que je joue, et de deux, je pense que qu'est-ce que je pouvais amener à une équipe de hockey tout en est capable de marquer un certain nombre de buts, c'était comme, il n'y en a pas tant que ça des gars qui scorent à toutes les années, tu sais, une quinzaine de buts, capable de jouer sur un power play sur la première unité. Si tu regardes mes chiffres là, au travers de ma carrière sur un power play, là, les statistiques avancées, je suis dans les meilleurs que qu'il y avait quand que je jouais. Donc, c'est sûr que tout ça ensemble, ça rendait quand même, c'était pas facile à digérer. Surtout les gens aussi autour de moi, je pense que les gens voulaient pas mal faire, là, mais tu sais, les gens posaient beaucoup de questions. Tu sais, c'est quoi qui se passe l'année prochaine? Tu penses-tu aller jouer en Europe ou des affaires comme ça? Puis je pense que pour moi, ben d'un côté, c'était comme un peu je vais prouver aux autres qu'est-ce que je suis capable de faire une autre fois. Bon, c'est sûr qu'avec le temps, ça n'a pas toujours été facile. Mmh. Ça travaille entre les deux oreilles, mais en même temps, ça fait partie un peu de mon histoire, de ma carrière, puis qu'est-ce que je te disais tantôt. Comme c'est vraiment ça que je suis le plus fier. Comme j'avais. On dirait à toutes les fois, j'avais un obstacle à accomplir, puis je réussissais, admettons, à accomplir l'obstacle. Bon, j'aurais aimé ça que des fois, j'aurais eu
un break
à quelque part. Puis, mais en même temps, tu sais, je me dis, je regarde tout ça, je me dis, ben, ça fait partie de la vie, tu sais, je l'ai vécu dans ma carrière, puis maintenant, ben, peu importe qu'est-ce que je vais affronter pour le reste de ma vie. Tu sais, je l'ai vécu, là. Qu'est-ce que j'ai vécu? Je l'ai vécu, admettons, là, au plus haut que tu peux le vivre, là, dans mon sport, dans la Ligue nationale. Donc, les autres obstacles qui vont être devant moi, puis tu sais, même là, admettons, différentes choses qui est dans ma vie, ben, tu sais, oui, des fois, ça peut être stressant, mais en même temps, ben, je l'ai vécu dans une situation où c'était vraiment le high stakes. Donc, je pense que pour moi, j'en retiens beaucoup de ça. Je pense que j'ai accompli beaucoup en tant que de ma personne au travers de ma carrière. Je pense que les atouts, les qualités que j'ai développées au travers de ma carrière, je pense que c'est des choses là, que j'en suis extrêmement reconnaissant.
Il faut parler de tes meilleurs souvenirs, tes beaux souvenirs. J'imagine que celui avec les Capitals en 2017-2018, c'est assez haut dans ta liste de souvenirs. Parle-nous un peu de c'était comment dans ce vestiaire-là. Bon, encore là, tu es arrivé à Washington. Tu signes ton contrat tout juste avant le début de la saison. J'imagine que c'est un des beaux contrats que tu as signé dans ta vie avec peut-être contrat de mariage, j'imagine, là, mais c'est un des deux que tu as pu signer, que tu dois être pas malheureux d'avoir pris cette décision-là. Quand est-ce qu'il y a eu le déclic? On est dans une équipe spéciale. Ovechkin est en train de devenir un nouvel Ovechkin. Il y avait votre entraîneur, Barry Trotz, qui semblait peser les bons boutons. Puis finalement, vous battez les Pingouins en séries éliminatoires. C'est-tu à ce moment-là ou pour cette équipe-là? Toi, t'arrivais, tu sais, t'avais pas le bagage de défaite que cette équipe-là avait eu contre les Pingouins avant. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a eu un déclic dans la tête de tout le monde que, OK, on est sur la bonne ligne?
Oui, je pense que, tu sais, vraiment, au travers de l'année, on a eu, durant la saison régulière, on a eu une bonne saison. Je pense que sur papier, en tant qu'équipe, on n'avait peut-être pas la qualité d'équipe que Washington avait eu dans les dernières années. Admettons, si tu parles de la qualité des joueurs, là, si tu compares les joueurs un pour un. Mais je pense vraiment la différence cette année-là pour les gars qui ont été là longtemps. Les gars parlaient vraiment, mettons, de la chimie de l'équipe. On était vraiment une équipe qui était proche. Tout le monde s'entendait bien ensemble sur la glace et hors de la glace. Mais comme tu as dit, Nicolas, je pense vraiment là, que quand on a gagné là, le match numéro 6 à Pittsburgh de la deuxième ronde, là, ça a vraiment été comme l'élément déclencheur. Là. C'est vraiment dur à expliquer. J'ai de la misère des fois, là, j'en parle souvent, mais j'ai comme c'est dur à trouver les mots pour expliquer la façon que ça a changé, admettons, le core de l'équipe là, quand que on a gagné ce match-là. En tout cas, moi, je regarde ça avec quand que je pense à ça, puis j'en parle. Après qu'on a gagné le match numéro 6, on était comme un peu imbattable. Puis c'est sûr que la prochaine série d'après, on a gagné en 7 comme Tampa Bay. Donc, c'est sûr qu'un match numéro 7, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Puis en finale, on a gagné en 5 contre Vegas. Là. Mais c'était comme un peu l'élément déclencheur comme en tant qu'équipe. Mais surtout pour les gars qui ont été là pendant un certain nombre d'années qui n'étaient pas capables de battre Pittsburgh en deuxième ronde. Cette année-là, c'était comme, bon, on les a battus, maintenant c'est à notre tour. Puis le reste, un peu... tu vois comment que ça s'est passé.
Ouais, ouais, the rest is a story, comme on dit.
Ouais.
Tu jouais avec un certain Alex Ovechkin. Il y a un record qui s'en vient de plus en plus. Écoute, j'ai regardé, je suis remonté. Tu as une passe sur un but de ses 875 buts présentement. Je pense 876. Au moment où on vous écouterait, peut-être qu'il va être à 77, 78, 79, peu importe. Mais tu as 22 novembre 2017, un gain de 5-2 contre une de tes anciennes équipes, les Sénateurs d'Ottawa. Tu vas faire partie de cette liste-là, de ceux qui ont aidé Alex Ovechkin à se rendre jusqu'à... Peut-être, en tout cas, on se croise les doigts jusqu'au bout. Quand tu jouais avec Alex Ovechkin, on parle tout le temps là, dans l'histoire, les records de Wayne Gretzky, c'est des records qui sont inatteignables. Tu le regardais aller, tu pensais-tu que c'était possible que ce joueur-là, aussi talentueux soit-il, s'amène à ce niveau-là, s'amène dans cette discussion-là pour le record?
Je sais pas comment dire ça vraiment. Je peux pas vraiment dire que je suis vraiment surpris.
Ah ouais?
Il y a un talent exceptionnel, évidemment, son lancer. Mais, tu sais, Ovi, il y a comme une drive qui est... c'est vraiment contagieux. Je sais pas exactement, il est rendu à quel âge, là?
Il est 39, si je me trompe pas.
38, 39, ouais, dans ces années-là. C'est comme il y a la mentalité d'un peu d'un gars de 25 ans. Comme,
okay.
Tu sais, lui être à l'aréna, c'est le fun. Tu sais, faut avoir du fun à l'aréna. C'est un gars qui est vraiment easy going, là, admettons, là, en dehors de la glace, très amicable. Tu sais, il y a une personnalité vraiment qui est, moi, je trouve ça super, un peu, ouais, attachante. Mm-hmm. C'est un gars que, en tout cas, moi, c'est vraiment, vraiment, là, il a vraiment pris du temps pour m'aider à ma game. Puis aussi, tu sais, je sais pas moi, mettons, invité à souper sur la route, des affaires comme ça. Moi, je l'ai vraiment aimé. Puis le fait qu'il soit proche comme ça, ben pour moi, en fait, la seule raison qui comment que je voyais ça, qui, admettons, il n'aurait pas eu la chance de battre le record, c'est les blessures. T'sais, si, admettons, il y avait une grosse blessure ou quelque chose comme ça, je pense que c'est vraiment la seule raison qu'il a, qu'il serait pas capable de battre le record de Wayne Gretzky. Mais bon, je sais pas si ça va se passer cette année, mais évidemment, ça va se passer là, dans la prochaine année, quelque chose comme ça. Donc, spécial. Ouais.
Il marque plus maintenant que dans votre temps quand tu jouais avec. C'est ça qui est le plus. Il y a un meilleur rythme de production, c'est difficile à croire.
Exactement.
Tu réalises-tu, tu sais, puis après ça, tu as été joué avec les Oilers, tu vas avoir joué avec Connor McDavid, Leon Draisaitl, qui est peut-être un des meilleurs duos de tous les. Dans les meilleurs duos, mettons top 10, là, je ne veux pas partir un débat avec les gens qui nous écoutent, là, mais dans les meilleurs duos de tous les temps, tu vas avoir joué avec peut-être le recordman, le meilleur buteur de tous les temps. Tu sais, après une carrière de 11 ans, tu dis j'ai joué avec ces trois types de joueurs-là. T'arrives-tu à y croire? T'arrives-tu à y croire à tout ce que tu as vécu dans les 11, 12, 13 dernières années? Ça va avoir passé vite, tu t'en es pas rendu compte. Quand est-ce que ce déclic-là s'est fait que j'ai vécu de quoi de spécial?
Oui, bien, je pense un peu, c'est tantôt on parlait de qu'est-ce que je suis plus fier. C'est un peu comment j'ai toujours cru en moi, peu importe la situation dans laquelle qu'est-ce qui se présentait devant moi. Puis, toutes ces situations-là m'ont amené à vivre des expériences comme ça un peu. C'est facile de... Personnellement, j'aime pas ça faire ça, mais si j'avais pas pris, mettons, l'essai à Washington où j'avais d'autres options sur la table, j'aurais pas joué avec Ovi, j'aurais possiblement jamais gagné une Coupe Stanley. Si j'avais pas pris l'essai, mettons, à Edmonton où... Vraiment, tu sais, je sortais d'une année où j'avais gagné la Coupe avec Washington, puis j'avais quand même eu une bonne saison et des bonnes séries éliminatoires. Je me disais tout le temps, c'est comment ça qu'une équipe ne m'a pas signé, admettons, la valeur que je voulais avoir. Il a fallu que je prenne un essai. Évidemment, j'ai fait l'équipe, puis j'ai joué 3 ans consécutifs avec ces deux gars-là. C'est un peu... oui, je suis extrêmement fier d'avoir joué avec ces gars-là, puis en même temps, c'est des gars qui sont exactement comme moi. Tu sais, c'est des gars qui sont... Oui, c'est des superstars, mais c'est pas des gars qui sont extrêmement différents de la personne que je suis. Donc, c'est sûr que j'ai eu du plaisir de jouer avec ces gars-là. Mais en même temps, toutes ces situations-là m'ont amené à avoir la chance de jouer avec ces gars-là qui, maintenant, sont, pour moi, quelques-uns d'entre eux, je suis encore en contact tu sais, au quotidien. Puis... mais ces situations-là m'ont donné la chance de pouvoir vivre un petit peu ces expériences-là.
Tu penses-tu, t'en as gagné une coupe cette année, tu penses-tu que les Oilers vont être capables d'aller au bout cette année après avoir passé si proche l'année dernière? J'imagine que ça reste des traces. Je sais pas à quel point tu parles avec les gars dans le vestiaire. C'est quoi le beat un peu? Est-ce qu'on est dans le même mood qu'il pouvait être l'année dernière? Ou...
Ouais, je pense que oui. Je pense que je regarde un peu, mettons là. Quand nous, on a gagné à Washington, on disait, mettons, il n'avait pas été capable de battre Pittsburgh en deuxième ronde, je ne sais pas pendant combien de nombre d'années. Les Oilers, l'année passée, ils ont perdu un match numéro 7 en finale. Dans les années précédentes, là, moi, ma deuxième, troisième année, on a fait les séries. T'sais, c'est graduellement. Mm-hmm. Là, ils font partie d'un nombre d'équipes qui sont vraiment en haut de la ligue. T'sais, en série, tu sais jamais ce qui peut arriver, mais faut que tu te donnes l'opportunité de pouvoir le faire. Puis je pense que c'est sûr que ces deux gars-là les aident vraiment. Mais en même temps, ils ont un noyau de joueurs qui sont capables d'avoir un impact sur le match qui est beaucoup plus gros que dans le temps que je jouais, mettons, avec les Oilers. Ils ont beaucoup plus de profondeur. Stuart Skinner, évidemment, fait une bonne job là, devant le filet pour eux autres. Donc, ça va être cette année. Moi, je pense que c'est une question de temps. Puis, je le souhaite vraiment. Je pense que aussi la ville d'Edmonton, c'est une ville que, tu sais, il y a eu des années que c'était pas facile là, avec les Oilers. Tu sais, moi, je me rappelle ma première année, tu sais, les gens, tu sais, il y avait des chandails sur la glace, des affaires comme ça. Je pense que... la ville, la communauté mérite un peu aussi d'avoir une Coupe Stanley. Puis aussi, les gars qui ont fait partie des années plus difficiles là, méritent aussi de pouvoir gagner. Puis je leur souhaite.
En terminant, je veux parler de ta nouvelle vie parce que c'est le fun de voir où tu as décidé de te diriger après la. Il y en a que ça va être le terrain de golf, la Floride, le chalet ou peu importe. Toi, tu es retourné aux études. On disait que tu étais à Boston. Tu es retourné à ton alma mater, à l'Université de Boston. Tu as joué 3 ans. Il ne te restait plus d'années d'admissibilité pour jouer, malheureusement. Ça aurait été le fun, mais
ouais.
Tu avais brûlé ça quelques années. Pourquoi tu as décidé de retourner aux études? Là, tu étudies en finance et en histoire. Tu es en train de finir ça. Tu devrais avoir ton papier, ton diplôme à la fin de l'année. C'était quoi ta réflexion? Puis quand est-ce que cette réflexion-là a commencé de faire moi à la fin de mes études, à la fin de ma carrière plutôt, je retourne à l'école?
Ben pour reculer un peu, je pense que quand je suis parti ici là, de l'université après ma 3e année, j'avais fait un peu une promesse là, avec à mes parents qu'éventuellement j'allais revenir et finir mes études puis obtenir mon diplôme. En grandissant chez nous, mes parents ont toujours mis l'emphase vraiment sur oui, c'était important le sport, le hockey, mais pour ma soeur et moi, je pense que les études étaient vraiment aussi importantes. Donc, si on n'avait pas des bonnes notes, ben, ils n'avaient pas de sport. Donc, c'était important à la maison de tu sais, l'école était toujours quelque chose qui était important. Puis j'en suis extrêmement reconnaissant que mes parents ont mis l'emphase sur ça en grandissant. Je te dirais que quand le COVID est parti en 2020, nous, on avait notre maison à Edmonton, puis la NHLPA là, avait comme commencé tous les quelques jours. Il y avait des appels Zoom, comme on fait aussi, où il y a quelqu'un qui parlait, puis il parlait. Comme une fois, je me rappelle la première fois là, que j'avais et puis sur l'appel, c'était comme c'est quelqu'un qui parlait de devenir éventuellement comme courtier immobilier. Puis à la suite de l'appel, c'était pas quelque chose qui m'intriguait, mais je pense que c'est à partir de ce moment-là que j'ai réalisé, bon, un jour éventuellement, ça, tu sais, ma carrière, je pourrais pas jouer jusqu'à temps que j'ai 50 ans. Malheureusement, un jour, ça va finir. Puis je vais devoir avoir quelque chose d'autre dans ma vie que je vais avoir une passion, puis qui va aussi me donner une certaine structure dans ma vie quotidienne. Puis c'est un peu comme ça, l'année passée, là, quand je me suis fait opérer, je suis retourné à l'école, j'ai pris une classe en ligne, puis tranquillement, pas vite, là, j'ai pris des classes là, au travers de l'été. J'en ai pris une à l'automne, puis maintenant, il m'en reste juste deux. Donc, je sais pas exactement dans quelle direction ma prochaine carrière là, va se diriger, mais en même temps, je pense que pour moi, c'est aussi une question de fierté. Je vais pouvoir dire que c'est pas facile à 34 ans de retourner à l'école, ouais, mais je vais pouvoir montrer à mes enfants que oui, j'ai joué dans la Ligue nationale pendant 11 années, mais quand ça a été fini, ben je suis retourné aux études puis j'ai obtenu mon diplôme. Je pense que pour ma femme et moi, c'est quelque chose qu'on met une certaine valeur là-dessus. Puis en même temps, qu'est-ce qui va se passer dans le futur pour moi? Mais ça me donne des options. Peu importe là, dans quoi je me dirige.
C'était-tu plus facile d'être étudiant quand tu joues au hockey ou avec un enfant de petit gars de 6 mois à la maison qui peut réveiller de temps en temps?
Ouais, c'est beaucoup plus facile quand j'avais 18-19 ans qu'à 34 ans. Là, mais je te dirais que c'est. Ben, c'était plus facile parce que j'avais une vie évidemment un petit peu différente, mais je pense qu'aussi maintenant.
Là, aussi,
ouais, exactement. Mais je pense qu'à 34 ans aussi, il y a des choses que j'apprécie peut-être plus aujourd'hui à l'école que j'appréciais peut-être dans le temps. Donc je te dirais que j'ai hâte de finir, mais en même temps, c'est quand même des bons souvenirs. Là. C'est spécial de retourner à l'école, ça sert. Sur un banc à prendre, je pense que j'essaie d'en profiter aussi.
Oui, parce que là, on se parle, tu es dans les installations du Agganis Arena. D'ailleurs, là, en arrière de toi, il y a la grosse photo de Miracle en 1980, la victoire des Américains. Un poste dans le hockey, je veux dire, tu as déjà un pied dans un arena présentement, là, ça se pourrait-tu ou tu t'en vas vers d'autres choses?
Oui, je pense que, en fait, je pense que j'ai vraiment. j'ai vraiment une passion pour le hockey. Puis j'aime encore super ça. Je pense physiquement peut-être et mentalement. En tant que joueur, c'est peut-être le côté, évidemment que j'ai pris ma retraite, mais je pense que j'ai beaucoup à offrir encore dans cette un petit peu là dans ce domaine-ci. Je sais pas exactement dans quelle direction là j'aimerais commencer ça, mais je pense que c'est quelque chose que j'aimerais vraiment là essayer, mettre un petit peu l'emphase là-dessus dans les prochaines années, puis voir un peu qu'est-ce que ça pourrait m'apporter.
OK, Alex, on risque de te voir. T'écoutes, on risque de te voir en arrière d'un banc éventuellement. Ou en tout cas, on va t'en voir dans le monde du hockey. Ça semble pas mal surprenant. Gros merci d'avoir été avec moi aujourd'hui sur le balado.
Ça fait plaisir, Nicolas.
On va suivre tout ça à distance en te regardant. Mais Boston, c'est pas trop loin de toute façon. Hein? Fait qu'on va garder les bons espoirs qui vont se développer à côté de toi. Tes collègues d'école.
Exactement.
Un gros merci, Alex.
Ça fait plaisir.
Au revoir. Alors, c'est sur cette note qu'on met un terme à ce nouvel épisode du balado d'LNH.com. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Si vous voulez lire les textes de nos collègues Jean-François Guillaume qui était là aujourd'hui, en apprendre un peu plus sur la durée de l'absence de Kaden Goulet, sur le retour aussi de Drew Doughty. On a appris ça là, dans les dernières secondes. N'hésitez pas à nous suivre, à nous lire sur lnh.com. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, LNH sur Facebook, LNH barre de soulignement FR sur X, sur Instagram, sur Threads et LNH-FR sur Blue Sky. Comme ça, vous êtes certains de ne rien manquer de l'actualité dans la LNH. Merci à Jean-François et à Guillaume qui étaient là plus tôt. Merci à Alex Chiasson pour son passage aussi. Et chers auditeurs, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et on se reparle très bientôt.